Alors que nous avons terminé une série dans le livre de la Genèse avec la vie de Jacob, on va pendant quelques semaines terminer l'évangile de Jean, qu'on a commencé il y a quelques temps, mais en se préparant pour Pâques, ce sera l'occasion de penser à la mort et à la résurrection de Jésus. La grande question de ce soir, c'est pourquoi Jésus est-il arrêté ? Si vous avez écouté un peu les nouvelles, consulté les médias, on a pas mal parlé de Redouane Faïd pendant cette semaine. Il a une trajectoire assez trépidante. Il a été, pour divers faits, criminel, accusé, braquage entre autres, accusé et incarcéré de 1999 à 2009. Sorti de prison en 2010, il termine un livre où il dit avoir changé de vie, renoncer au banditisme. Mais cette même année 2010, un braquage a lieu et dans la course-poursuite, une policière est tuée. Et quant au braquage, en tout cas, des éléments mènent les enquêteurs vers Redouane Faïd. D'une part, les braqueurs venaient tous de la ville dont il est originaire. Ensuite, on a vu sur des caméras le jour précédent, près des lieux du braquage, sa voiture. On retrouve des armes qu'il détient illégalement. Et donc, on le soupçonne d'être l'organisateur du braquage. Il est emprisonné de nouveau. Il se déclare non coupable. Et en avril 2013, il s'évade pour une cavale qui va durer un mois et demi. Il est de nouveau capturé, emprisonné. Et cette semaine, son procès démarre. Et son avocat déclare qu'il est innocent. Il est innocent des faits qui lui sont reprochés. Pourquoi est-ce que Faïd a été arrêté ? On pourrait penser à plusieurs réponses. On pourrait penser à une réponse comme « parce qu'il est coupable », « parce qu'il ne peut pas échapper à la justice » ou encore « parce qu'il est victime d'une injustice ». Quand on pense, et on pense au moins qu'il y aurait une ou deux de ces réponses qui seraient justes par rapport à Redouane Faïd. Quand on pense à Jésus, à son arrestation à lui, et qu'on pose la même question, pourquoi est-ce qu'il a été arrêté ? Jean veut nous dire qu'aucune de ces trois réponses n'est satisfaisante. C'est certainement pas parce qu'il est coupable. C'est certainement pas parce qu'il ne peut pas échapper à la justice. Et même si c'est vrai qu'il est victime d'une injustice, ce n'est pas ça que Jean veut nous communiquer par son texte. La raison est ailleurs et il nous faut, pour cheminer vers ces réponses, moi j'aimerais vous poser deux autres questions. On a la question de départ, deux autres questions. Vous allez vous dire, mais est-ce qu'on va répondre à toutes ces questions ? Eh bien, je vous renvoie à la question. Est-ce que vous pensez que nous allons répondre à la question ? Bon, vous me direz à la fin si on a fait un bout de chemin au moins. Mais les deux questions, on les relève dans le texte. Qui cherchez-vous ? Question posée par une servante à Jésus. Et la deuxième question qu'on prendra, c'est « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Et au-delà de questions qui vont nous aider, j'espère, à méditer ce passage, ce sera aussi l'occasion de nous les poser. Qui cherchez-vous ? Ne fais-tu pas, toi aussi, partie des disciples de cet homme. On commence avec la première. Qui cherchez-vous ? Pour entrer dans les circonstances de cette soirée, pensez à un endroit où vous vous sentez au calme, en paix. Un endroit que vous aimez retrouver pour sa tranquillité, peut-être aussi pour sa sécurité. Un endroit calme et serein. C'est dans ce genre d'endroit que Jésus se rend. Et il l'a déjà fait plusieurs fois dans un jardin, celui de Gethsémané. Et pourtant, cet endroit-là, ce n'est pas du tout l'endroit où il va être en sécurité ce soir-là. Judas est mentionné à plusieurs reprises dans les premiers versets. Judas sait où Jésus se rend. On nous dit même qu'il s'est rendu à plusieurs reprises avec les autres disciples et Jésus. C'est Judas qui emmène la troupe pour arrêter Jésus. Et on le mentionne encore une fois pour dire qu'il était bien là au moment de l'arrestation lorsque l'échange a lieu. Et dans un premier temps, on peut se demander, mais quelles sont les chances de Jésus d'échapper à leur arrestation ? Quelles sont ses chances ? Surtout quand on voit les forces en présence. Alors, on a beaucoup parlé du raid qui a eu lieu à Saint-Denis après les attentats en novembre. 70 hommes du raid, 40 hommes de l'abri, au total 110 hommes. On estime à plusieurs milliers, peut-être 4-5 000 munitions utilisées, un chien, des explosifs. Et là, on se dit, quelle chance est-ce que les terroristes avaient d'échapper à cette interpellation? Alors c'est vrai, dans l'arrestation de Jésus, on n'a pas les munitions, on n'a pas les explosifs, le chien semble-t-il non plus. Mais quand on voit proportionnellement les forces en présence, c'est pareil. Ce n'est pas simplement des soldats romains, et le terme utilisé renvoie à un certain nombre, une troupe, une cohorte, ou en tout cas un bon paquet de soldats romains. Il y a aussi des soldats qui sont envoyés par les prêtres et les pharisiens. Un commandant qui est là, on en voit les gradés. Toute cette troupe d'un côté, et de l'autre, Jésus et ses 12 disciples. Quelle chance est-ce qu'il a d'échapper? Ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont tout ce qu'il faut pour travailler de nuit, lanterne, torche. Pourquoi est-ce que Jésus est arrêté? Parce qu'il ne peut pas échapper à la justice. Et bien Jean veut nous dire précisément que ce n'est certainement pas à cause de cela. Il ne serait pas d'accord avec cette affirmation parce qu'il se souvient de plusieurs éléments qu'il relate ici dans son évangile et qui doivent nous faire réfléchir. Déjà au moment de l'arrestation, c'est Jésus qui prend l'initiative de poser les questions. Qui cherchez-vous? À deux reprises. Et par trois fois, c'est Jésus qui dit « c'est moi ». C'est moi que vous cherchez. Et dans tout ce qui arrive, on sait que, et Jean nous le dit, Jésus sait ce qui va se passer. Il a d'ailleurs annoncé à ses disciples ce qui allait se passer. Il a même dit à Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Autrement dit, on a un timing à respecter. Avant même que tout cela se produise, Jésus sait tout ce qui va se passer. Et à toute cette bande de soldats romains et juifs qui viennent le capturer, il va même donner un ordre. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. Et ils vont devoir appliquer cet ordre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a posé la question, qui cherchez-vous? Ils ont répondu, Jésus de Nazareth. C'est moi. Alors laissez partir ceux-ci. Sur la base de vos propres paroles, c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. C'est Jésus qui mène le bal. Et on se souvient en cela qu'il... Et Jean se souvient plutôt en cela qu'il accomplit une promesse qu'il avait faite un peu plus tôt. « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Il nous faut encore voir un élément de taille. Quand il répond à sa question « Jésus de Nazareth », Jésus affirme à son tour « C'est moi » ou littéralement « Je suis ». C'est des mots qui ont du poids pour Jean qui relate tout ça. Déjà, on le voit d'une part dans la réaction des soldats. Il nous est dit qu'ils reculèrent, tombèrent à terre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une troupe de soldats qui recule, qui tombe à terre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la réaction qu'on voit à différents endroits dans la Bible lorsque Dieu se manifeste dans toute sa sainteté, dans toute sa gloire. Et si on prend les deux en même temps, je suis une manifestation qui fait tomber à terre, ça rappelle Moïse. C'est bien comme ça que Dieu s'est manifesté à lui. Quand il demande qui l'envoie, c'est je suis. Et tout au long de son évangile, Jean a voulu mettre en évidence la divinité de Jésus en précisant toutes les fois où Jésus a utilisé « je suis » précisément. Je suis le Dieu éternel, souverain, le Dieu rédempteur. Prenez par exemple la fin du chapitre 8 où on entend Jésus dire à ses auditeurs « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Quoi? Et là, qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils réagissent? Ils ramassent des pierres parce qu'ils ont très bien compris que Jésus affirme être Dieu. Et ils veulent le lapider, c'est tout simplement insupportable à leurs oreilles. Et trois fois ici, c'est sa divinité qui est affirmée. Je suis. Qui cherchez-vous? Et ça vaut la peine de vous poser la question, de nous poser la question. Qui cherchons-nous? Un Jésus apathique, mielleux, naïf, qui va se faire prendre? Ou peut-être avec toutes les peintures qu'on a vues de Jésus, et en particulier celle à la croix, où on le voit fragile, rachitique peut-être. La réaction qui nous viendrait peut-être, c'est la pitié. Est-ce qu'on va avoir de la pitié pour celui qui est « Je suis » le Dieu éternel? Alors si c'est vrai que Jésus va bien connaître l'humiliation de la croix et la faiblesse, il ne va pas pouvoir porter la croix. Il demeure encore et toujours celui qui est, celui qui par son existence soutient notre existence. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui est l'auteur de l'existence en même temps que le juge. Et il reste tout cela, même dans ces moments-là. Qui cherchons-nous? Qui cherchez-vous? Et si vous cherchez un simple homme, quelqu'un qui vous inspire, peut-être même vous vous demandez, vous avez entendu des gens dire qu'il n'a même pas existé. Jésus affirme, et Jean nous le dit, en tant que témoin oculaire, « Je suis, c'est lui, l'Éternel, le Dieu souverain, le Dieu rédempteur. » D'accord, Jésus n'est pas arrêté parce qu'il ne peut pas échapper à la justice. Alors, pourquoi est-ce qu'il est arrêté? Ce n'est pas la fin de la première partie. Jean nous dit ensuite la réaction de Pierre, comment il a réagi. Et si vous êtes visuel comme moi, vous avez besoin de représentation mentale pour voir la scène. Quand Pierre prend l'épée, il ne faut pas avoir D'Artagnan à l'esprit. Il ne faut pas non plus avoir Aragorn. Et Zorro non plus. Maintenant, si on est dans le cadre de Zorro, eh ben c'est plutôt le sergent Garcia. Sergent Garcia qu'il faut utiliser pour voir la scène. Il a toute une troupe devant lui, Pierre. Et qu'est-ce qu'il arrive à faire? Quand on a une épée, on va s'en prendre aux organes vitaux, à la tête, au cœur. Il arrive à toucher une oreille quand même. Il arrive à toucher une oreille. On peut reconnaître tout de même en Pierre, un courage, une passion pour Jésus. Mais Jésus le reprend en lui disant, « Remets ton épée dans son fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et là, on réalise comment est-ce que la force, la puissance de Jésus se dévoile. Elle se dévoile précisément dans le fait d'accepter cette arrestation, d'accepter la mort qui viendra ensuite. Elle se voit dans le fait qu'il veut protéger ses disciples. La coupe, c'est la manière dont Jésus a parlé dans sa prière de la mort qui vient. La coupe, dans l'Ancien Testament, c'était un symbole du jugement de Dieu, de la colère, et un jugement que Jésus lui-même va boire jusqu'au bout. Et c'est Jésus se fait arrêter ici, ce n'est pas parce qu'il manque de puissance. Sa puissance, elle est à l'œuvre dans le fait justement d'accepter d'être arrêté, d'accepter cette mort, de protéger ses disciples. Et là déjà, on commence à entrevoir qu'il y a un lien entre les deux. Il y a un lien entre le fait de protéger ses disciples et d'accepter lui-même de mourir. Mais il nous faudra aller plus loin. Et on va passer à la deuxième question. Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme? Même s'il est maladroit, on a dit qu'il était maladroit, on peut reconnaître qu'il avait dit quelque chose ce soir-là et on voit qu'il veut aller au bout de ce qu'il a dit. Ce soir-là, on le voit au chapitre 13, alors qu'ils prennent un repas ensemble, Pierre a entendu Jésus dire qu'il allait partir et il se demande pourquoi il ne peut pas aller avec lui. Et il affirme avec conviction qu'il veut le suivre, qu'il donnera sa vie pour lui. « Je donnerai ma vie pour toi. » Il l'a dit, il veut suivre Jésus partout où il ira et il donnera sa vie pour lui. Alors que Jésus est lié et amené chez le grand prêtre Anne, qu'est-ce que Pierre fait ? Eh bien, il le suit, comme il l'a dit. Il le suit. Jean est probablement l'autre personne qui se décrit de manière anonyme, comme il le fait ailleurs. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans ce qui se passe, Jean veut en quelque sorte entremêler le reniement de Pierre avec l'interrogatoire de Jésus. Remarquez que Jean ne met pas à la fin de l'interrogatoire les trois reniements de Pierre. Il aurait pu les mettre côte à côte. Mais ces reniements de Pierre, ils encadrent en quelque sorte l'interrogatoire de Jésus. Celui qui renie Jésus, c'est Pierre. C'est pas n'importe qui. Si vous remontez un peu dans l'évangile de Jean au chapitre 6, vous voyez toute une flopée de disciples qui se retirent de Jésus parce qu'il a des paroles trop dures. Mais Pierre, quand Jésus dit « Et vous, vous ne voulez pas partir ?» Pierre dit « Vers qui irions-nous ? » C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il veut suivre Jésus. Remarquable. C'est lui aussi dont on sait qu'il a dit « Tu es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. » Et par la suite, on voit qu'il a été un des fers de lance de l'Église naissante. Pierre, c'est un très bon élément. Allez, on va même dire le meilleur. Celui qui va en tête régulièrement. Quand on prend le meilleur disciple, quelqu'un qui a vécu 3 ans aux côtés de Jésus, qui a entendu son enseignement de près, quand on prend quelqu'un qui a exercé le ministère aux côtés de Jésus, qu'est-ce qu'il a dans le ventre quand il veut suivre Jésus ? Qu'est-ce qu'il a dans le ventre ? Alors, on pourrait facilement s'en prendre à Pierre. On pourrait facilement ridiculiser Pierre en se disant qu'il n'a pas été à la hauteur. Mais si on est croyant ce soir, je pense que chacun d'entre nous, on pourrait reconnaître qu'on a fait pareil. Moi, je me souviens d'une sorte de rêve que j'avais quand j'étais plus jeune, alors que j'envisageais le ministère. J'avais ce rêve de voir dans l'église où j'étais tous mes amis réunis, amis du quartier, amis de l'école, amis du foot, tout cela à écouter une prédication. Alors, je pense qu'il y avait une bonne aspiration dans le désir de voir tous ces amis à l'écoute, réconciliés avec Dieu. Je pense qu'il y avait aussi un certain orgueil, prétention à pouvoir, grâce à moi, permettre à beaucoup de gens de venir à la foi. Mais en plus de cela, je peux penser à toutes les fois où, dans ces contextes-là, dans ces différents contextes, dans le quartier, au foot ou à l'école, ou régulièrement, j'ai eu honte de Jésus, honte du fait que j'étais chrétien. J'ai préféré le plaisir éphémère de plaire à mes amis plutôt que de plaire à Jésus. Et sans tous les dangers de Pierre, sans les menaces que lui a connues, j'ai pu le renier bien des fois, bien des reprises. Avec ça à l'esprit, revenons à Pierre. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre, Pierre ? Pierre doit patienter devant la porte, là où se trouve le grand prêtre Anne qui interroge Jésus. Et il est nez à nez avec un molos. Non. Il est nez à nez avec un commandant romain. Non. Il est nez à nez avec une meute de soldats enragés. Non. Il est nez à nez avec une servante, probablement une esclave, qui lui pose la question « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?» Et une première fois, Pierre dit ne pas en faire partie. Il ne fuit pas pour autant, il veut suivre son maître jusqu'au bout. Et l'interrogatoire a lieu à l'intérieur. Jean nous dit ensuite qu'une deuxième fois, la question lui est posée à Pierre. Et il dit qu'il n'en fait pas partie des disciples. Si on doute en se disant que c'est juste un moment de faiblesse, eh bien non. Une troisième fois, un score sans appel, et 1, et 2, et 3. Et la troisième fois, c'est face à quelqu'un qui est proche du dossier, un parent de Malchus. On pourrait se dire qu'à ce moment-là, il va lâcher le morceau, il va quand même dire que c'était lui. Et il le nie une troisième fois. Jésus savait pertinemment ce qui allait se passer. Il avait annoncé combien de fois Pierre allait le renier. Il avait annoncé que le coq allait chanter. Il avait annoncé tout cela. Et si Jésus sait tout cela au sujet de Pierre, s'il l'a annoncé, s'il est arrêté, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas échapper à la justice. Alors pourquoi est-ce qu'il est arrêté? Que penser de ce temps avec Anne? Il faut voir le temps qu'il passe avec Anne, ce grand prêtre, comme une occasion pour lui, pour Anne, de l'inculper. On voit qu'il cherche sur la base de son enseignement, sur la base de ses disciples, et Jésus relève un fait très simple. Si on est dans une sorte de procès ici, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas entrer des témoins qui m'ont entendu? Et là, on réalise qu'on n'est pas dans une cour, on est dans un interrogatoire rondement mené et on met la pression sur Jésus. On veut le faire tomber sur la base de ses propres paroles. On cherche le moyen de l'inculper. Et tout ça, ça se fait de nuit. Parce qu'on ne pourrait pas légitimement le faire en plein jour, probablement. On fait pression sur lui, on veut l'inculper. Et il suffit à Jésus de relever le fait qu'on ne fait pas appel à des témoins et il est giflé. La gifle qu'il reçoit, elle est infligée parce qu'il s'est montré impertinent selon eux. Mais qui sont les impertinents? La question de Jésus restera sans réponse. Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? À la fin de cet interrogatoire qui est mené, il n'y a pas de raison de l'inculper. Il n'est pas coupable. Il va falloir l'envoyer chez quelqu'un d'autre, chez Caïphe, en espérant qu'il fera mieux. Non, il n'est pas arrêté parce qu'il est coupable. Alors pourquoi est-ce qu'il est arrêté? Mais il y a plusieurs indices que Jean nous donne pour nous aider à comprendre pourquoi Jésus est arrêté. Au début de cette partie, la mention de Caïphe permet à Jean de faire un petit commentaire. C'est Caïphe qui avait dit que, quelque temps plus tôt, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Au moment où Caïphe l'a dit, c'est par rapport à une menace. Au cas où les Romains voyaient Jésus comme un révolutionnaire, il faudrait peut-être intervenir l'armée et c'est le peuple qui en pâtirait. Et pour lui, il était préférable que Jésus meure plutôt que le peuple. Mais comme souvent, et Jean veut le relever, il y a une profondeur dans ce qui est dit. C'est bien préférable que Jésus meure à la place du peuple, mais pas comme Caïphe l'entend. Jésus est celui qui accepte de mourir de sorte que le peuple soit sauvé, préservé. Un élément qui va dans le même sens, c'est le rôle du grand prêtre. On parle de grand prêtre tout au long de cette deuxième partie. Quel était le rôle du grand prêtre? Eh bien, le rôle du grand prêtre, c'était d'être représentant du peuple vis-à-vis de Dieu, d'être en quelque sorte son intermédiaire, de permettre au peuple d'être réconcilié avec Dieu par rapport à ses fautes, d'offrir des sacrifices. Vous connaissez probablement la BD « Où est Charlie ?» Où est Charlie? Vous retrouvez Charlie sur l'image. Eh bien, le jeu ici, c'est où est le grand prêtre? Où est le grand prêtre? Parce qu'il y en a plusieurs qui se baladent. C'est Anne? C'est Caïphe? C'est qui? Déjà, entre les deux, on a un problème. Normalement, un grand prêtre devrait être nommé à vie, selon la loi de Moïse, et Anne avait été nommée grand prêtre. Est-ce que c'est lui? Après tout, il avait encore l'influence. C'est vers lui qu'on amène Jésus d'abord. Caïphe? Le gendre, celui qui a pris le relais, celui qui est officiellement, selon les Romains, qui ont voulu changer de grand prêtre, est-ce que c'est lui le grand prêtre? Avec les complots dont ils sont capables, avec les faux procès dont ils sont capables, on devrait avoir des doutes sur leur personne. Ça, le grand prêtre? Celui qui va vraiment représenter le peuple, celui qui va vraiment le réconcilier avec Dieu, celui qui, accusé, n'est pas coupable. Celui qui garde son calme dans tout ce qui se passe, le parfait grand prêtre, c'est Jésus. Et quant au sacrifice qui doit être offert, c'est lui-même. Il est les deux en même temps. Et là, on comprend mieux pourquoi Pierre, son reniement est entremêlé avec l'interrogatoire de Jésus. Si on prend le prototype de la personne pour qui Jésus va mourir, Ça pourrait être un Pierre, non ? Quelqu'un qui est capable de renier son Seigneur 3 fois, le trahir. C'est à cause de quelqu'un comme Pierre, c'est pour quelqu'un comme Pierre que Jésus a accepté d'être arrêté. Pierre a dit, moi je suis prêt à donner ma vie pour toi. La réalité, c'est que c'est Jésus qui va donner sa vie pour lui. Quand on vient chercher, arrêter Jésus, l'inculper, il répond ouvertement, c'est moi. Littéralement, je suis. Quand on cherche à inculper Pierre ou à l'arrêter lui, il répond faussement par la négative, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Je ne le suis pas, littéralement, je ne le suis pas. Pierre, c'est la bonne illustration d'une vérité qu'il nous faudra imprimer toute notre vie. On ne suit pas par Jésus parce qu'on est à la hauteur, parce qu'on est des gens bien, parce qu'on arrive à tenir nos promesses. Pour suivre Jésus, il faut commencer par réaliser 2 choses. On est des losers et il a fallu un sacrifice. Il faut commencer par cela, réaliser qu'on est des losers parce qu'on n'arrive pas à le suivre par nos propres forces, parce qu'on n'en est pas capable, parce qu'on est prétentieux. Et parce qu'il a fallu un sacrifice. Vous êtes peut-être venu ce soir avec certaine confiance en vous-même. Eh bien, ce texte doit vous aider, m'aidez-moi, à reconnaître que nous sommes des losers. Vous êtes peut-être venu avec un poids de culpabilité, le sentiment d'avoir commis des erreurs que vous ne pouvez pas réparer. Mais l'affirmation qu'il y a eu un sacrifice à votre place, devrait vous rassurer. Et il y a un encouragement magnifique dans la trajectoire de Pierre. À la fin de cet évangile, et je vais terminer avec cela, il y a eu 3 reprises où Jésus va poser une question à Pierre et il va répondre par la positive. Oui, Pierre va à un moment donné pouvoir suivre Jésus jusqu'au bout, faire ce que Jésus a fait pour lui, être un bon berger. Il va pouvoir donner sa vie pour son maître. Il va mourir pour lui. C'est la transformation qui s'opère dans la vie d'une personne qui précisément a réalisé dès le départ qu'il était loser et qu'il avait besoin d'un sacrifice. Que Dieu nous accorde cette même grâce-là tout au long de notre vie. Amen.